L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Je suis content de vous voir. Êtes-vous content d'être là? Super. Combien d'entre vous, ce soir, vous attendez de vivre quelque chose avec Dieu? Super, moi aussi. C'est bon. On va commencer avec un mot de prière, puis on va commencer tout de suite dans notre nouvelle série qu'on appelle. C'est quoi, comment qu'on appelle encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? C'est ça. Donc, l'école du ministère prophétique ce soir. On va voir ça, on va commencer ensemble, le ministère surnaturel. Et puis, on va juste remettre ce temps-là au Seigneur. On a 7 sessions, puis on va voir comment Dieu va nous diriger. Mais moi, je suis dans l'expectative qu'on va tous recevoir des choses de Dieu. Donc, on va juste prier. Père éternel, on vient devant toi ce soir, puis on veut juste te remercier pour ton amour pour chacun d'entre nous. On te remercie pour ton onction qui est déjà dans cette place. On te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement merveilleux. Tu veux te servir de nous, tu veux qu'on puisse parler pour toi, tu veux qu'on puisse prier pour les malades et les voir guérir. On te remercie parce que tu es un Dieu vivant. Nous servons le seul vrai Dieu, Seigneur, puis on est conscient de ça, on est conscient qu'on a le privilège de te connaître ce soir. Puis on veut juste t'inviter à prendre toute ta place ici. Seigneur, je veux te demander de remplir ma bouche pour que ton nom soit élevé ce soir parmi nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ça vous inviter, venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et ce soir, ce qu'on va faire, on commence l'école du ministère surnaturel. Et la première leçon, c'est les fondements du ministère prophétique. Donc, le ministère prophétique, ça ressemble à quoi, ça, au juste? Combien d'entre vous, ici, peut-être en levant la main, vous fait dire, j'ai déjà reçu une parole prophétique de quelqu'un? Quelqu'un m'a déjà donné une prophétie. Est-ce que quelqu'un ici? Ah, bien, c'est merveilleux. OK. Combien d'entre vous, vous avez déjà donné une parole prophétique à quelqu'un en levant la main? Eh bien, c'est bien, gloire à Dieu. Un petit peu moins, mais quand même, c'est bien. Sauf que ce qu'on va faire... Ce qu'on veut, on veut faire tout au long de cette série, c'est se positionner dans la foi pour ce que Dieu va faire à travers nos vies. Vous savez, on a déjà étudié à l'Église, on a déjà étudié sur les dons de l'Esprit. À l'IBEM aussi, on a vu les définitions des dons. Puis c'est vraiment merveilleux de connaître ces choses-là. Mais pendant longtemps, dans nos églises, on a connu plusieurs choses dans notre tête. Et je crois vraiment qu'on est dans une saison spirituelle. Et ça fait longtemps, je suis certain que c'était dans le cœur de Dieu, mais on est dans une saison où le Seigneur veut se servir vraiment de ses enfants, qu'on est appelé à parler pour lui au nom de Dieu, on est appelé à prier pour les malades, tout ça. Et puis, ce soir, ce qu'on va faire, on va établir les fondements et dans les semaines suivantes, ce qu'on va faire, on va développer. Mais ce soir, on va juste revoir certaines choses que peut-être vous connaissez, mais aussi on va aller plus loin dans tout ça parce qu'on veut progresser. Donc, je vais juste faire des fois allusion rapidement à certaines choses que vous connaissez et puis on va progresser comme ça. Donc, si vous êtes avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais commencer au premier verset. Ça dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc déjà, première chose, Dieu veut qu'on soit au courant des dons spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Bon, sauf que déjà là, on a la base. C'est sûr que si quelqu'un dit que Jésus est maudit, bien on est certain que, évidemment, cette personne-là n'est pas de Dieu. Au verset 4, ça nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Et déjà là, c'est qu'on voit des choses ici, il y a des dons spirituels, des dons charismatiques, des dons qui viennent de l'Esprit-Saint. Et là, au verset 32, pas 32, verset 6, pardon, 7, j'étais sur la mauvaise page, verset 7. Ma Bible est trop barbouillée, j'ai du mal à me retrouver là. « Or, à chacun, dites à chacun, donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et ce que je trouve merveilleux ici, c'est le mot « chacun ». Donc, chaque personne ici ce soir, vous pouvez même souligner dans vos Bibles, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, nous sommes tous appelés à manifester les dons du Saint-Esprit. Le voyez-vous dans vos bibles? Ça, c'est une chose où on veut s'arrêter, parce que souvent, on lit notre Bible puis on s'imagine, oui, c'est bon, c'est biblique, c'est bien. Mais quand on lit ce verset-là, le verset 7, on sait déjà avant qu'il y a des dons spirituels. Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et moi, je trouve ça, c'est un point vraiment important pour nous, comme on commence ce soir. Donc, quand je vais lire des choses concernant les dons spirituels, tout ça, ne dites pas, OK, ben ça, c'est pour une autre personne. Ou des fois, on peut s'imaginer, ah ben ça, c'est un grand homme de Dieu, mettons, Reinhard Bonnke, par exemple. Vous le voyez sur Internet ou à la télévision, puis vous dites, ah ben lui, c'est certain, lui, il a un don. Mais moi, je suis juste un petit frère ou une sœur dans le Seigneur, et puis finalement, je ne m'attends pas de vivre grand chose. Mais quand on lit le texte, ça dit, or à chacun, ça veut dire que nous sommes tous appelés à manifester les dons du Saint-Esprit. C'est merveilleux, ça. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Et on a déjà vu qu'une parole de sagesse concerne des paroles prophétiques qui concernent l'avenir. Donc, une parole de sagesse, des fois, une façon qu'on peut retenir ça, c'est qu'une parole de sagesse nous rend sages si on connaît l'avenir. OK? Juste pour vous aider, mais une parole de sagesse. Remarquez aussi, ce n'est pas le don de la sagesse. Des fois, il y a des gens qui disent, « Ah, ben moi, j'ai le don de la sagesse. » Bien, peut-être que vous êtes très sage, mais il n'y a personne qui a le don de la sagesse selon les dons du Saint-Esprit. Ça nous parle ici une parole de sagesse. Donc, c'est une portion d'une connaissance surnaturelle, une portion de connaissance de Dieu qu'il vous a donnée qui concerne l'avenir. Ensuite, ça dit à un autre, une parole de connaissance. Et une parole de connaissance concerne le passé et le présent. Donc, le passé de quelqu'un. Ici, c'est une des choses que je veux juste mentionner. Quand on parle des paroles de connaissance, il y a une différence entre les enfants de Dieu qui sont équipés avec les dons du Saint-Esprit et les gens qui sont dans le monde. Vous savez, il y a toujours deux sources. Il y a la source des ténèbres qui existe et il y a la lumière. Les gens qui sont dans l'occultisme, par exemple, les diseuses de bonne aventure, les gens qui font venir les morts, qui vont faire ces choses comme ça, tous les gens qui sont dans le monde des ténèbres, eux sont capables de parler du passé. Elle voit avec moi tout le monde? OK, donc, admettons, si quelqu'un est une médium, OK, il y a une femme qui est médium, mais cette personne-là est peut-être capable de parler de votre grand-père, votre grand-mère, tout ça, sont capables de vous parler de votre passé personnel, parce que les esprits méchants sont témoins de votre vie, n'est-ce pas? Donc, vous me suivez. Mais ces gens-là ne sont pas capables de prédire votre avenir. Mais la seule chose qui se produit souvent, c'est que les gens s'imaginent que finalement, admettons, une médium donne une parole. La personne commence à parler de, admettons, David. Elle commence à décrire sa vie passée, commence à décrire toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que David, s'il ne connaît pas Dieu, il peut se faire séduire par cette femme-là, par exemple, en disant « Ah, la personne connaît mon passé, connaît l'historique de ma vie en détail. » Donc, quand la médium commence à parler de son avenir, là, il va donner ou investir sa foi dans ses paroles. Pourquoi? Parce que cette femme-là a eu raison dans les choses du passé. Mais les paroles qu'elle va prophétiser pour l'avenir de David, bien, ces paroles-là vont seulement se réaliser si lui commence à croire et mettre sa parole en accord avec cette parole de malédiction. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est une des choses. Ça, c'est le monde des ténèbres. Donc, le monde des ténèbres connaît le passé, mais ils ne connaissent pas l'avenir. Sauf quand on se met en accord avec la parole de malédiction, puis là, finalement, on est en train de prophétiser notre vie en s'accordant avec des mauvaises paroles. Mais avec Dieu, quand on connaît le Dieu de la Bible, on parle ici du Dieu d'amour qui a une destinée pour chacun d'entre nous. Et puis, on peut avoir accès aux paroles de connaissance. Donc, c'est des paroles qui vont parler de notre passé et de notre présent, mais la parole de sagesse ensuite pour l'avenir, c'est là où l'ennemi ne peut pas imiter. Et puis, donc, on poursuit. Il y a, au verset 9, ensuite, c'est dit, « À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. » Donc, on vient de voir ici les dons du Saint-Esprit, et puis on a juste fait un survol assez rapide. Mais une des choses qu'on veut souligner également, c'est la partie qui dit « comme il veut ». Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui décide comment on va recevoir les dons de l'Esprit. On ne décide pas nous-mêmes, « OK, moi, je vais faire tel don, tel miracle. » Mais on va décortiquer ça ce soir, puis on va aller vraiment de l'avant. Je pense que ça va vous aider à vous positionner dans la foi. Donc, une des premières choses que je voulais faire, c'est juste lire ça avec vous et souligner dans 1 Corinthiens 12, verset 1, que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant, mais Dieu veut qu'on connaisse les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à marcher dedans. Dieu nous appelle à vivre les dons spirituels. Combien d'entre vous, peut-être, vous avez lu ce texte-là, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà étudié, mais vous voulez maintenant les vivre? Amen. Hein, c'est tellement une différence juste lire la parole, dire oui, c'est écrit, mais aussi dire moi, je veux les vivre et je veux découvrir comment les vivre. Puis c'est ça qu'on va vivre ensemble. Ça va être merveilleux. Je vais juste prendre une petite gorgée. OK. Donc, un autre point aussi que j'avais, que je voulais vous partager, c'est que ça nous dit « Or à chacun la manifestation ». Donc, déjà là, vous faites adopter la croyance que ça m'implique. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et encore une fois, ici, on voit si Dieu m'appelle à avoir ces dons-là, si Dieu m'appelle à manifester ces dons-là, c'est pas pour moi-même, c'est pour être une source de bénédiction pour des gens. C'est pour l'utilité commune. Bon, sauf que là, on a vu des choses qu'on connaît bien, mais là, on veut s'arrêter déjà devant les pièges. Pourquoi sommes-nous dans une connaissance biblique et pourquoi des fois passons-nous à côté de l'expérience? Parce que juste connaître des choses sans les vivre, c'est malheureux, n'est-ce pas? Si, admettons, vous allez dans une agence de voyage et vous prenez une revue, puis là, vous voyez des voyages sur Walt Disney, puis vous feuilletez ça, ou vous feuilletez, mettons, sur les croisières, puis vous magasinez tout ça, puis vous dites « Wow, ça a l'air beau, ça a l'air, le soleil semble tellement chaud, le sable là-bas semble plaisant. » Mais quand vous êtes toujours dans le livre seulement et vous vous rendez jamais les deux pieds sur la plage, bien, c'est malheureux. Hein? Donc, ce qu'on veut, c'est non seulement lire la brochure, mais on veut aller sur la plage. OK? Pour ceux qui aiment les voyages, là, je pense que je commence à vous rejoindre. Mais c'est ça. On veut pas juste lire, on veut également expérimenter. Donc, la première chose qu'on veut juste établir, c'est pour tous. Bon, les pièges ou traditions dans l'Église par rapport aux dons. La chose que je voulais voir avec vous, c'est dans 1 Corinthiens 12, 1. C'est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et puis, on a toutes sortes d'interprétations là-dessus. Et malheureusement, à cause de toutes sortes d'interprétations, finalement, on retrouve des gens qui sont totalement passifs, qui ne s'attendent pas que Dieu va se servir d'eux, parce qu'on a l'idée, ben c'est comme Dieu veut. Donc, si les dons spirituels sont là, moi, j'y crois. Je crois que je peux prophétiser, je crois que je peux prier pour les malades, je crois que je peux faire toutes sortes de choses, mais ça va être comme Dieu veut. Donc, si Dieu veut pas, bien, il n'y a rien qui va se passer avec moi. Ou je peux penser, ben, ça va arriver avec d'autres personnes. Combien d'entre vous, vous avez déjà pensé comme ça peut-être, sans le dire? Mais comme il veut. Ça fait que ben, si Dieu veut, il va le faire. Mais vous savez que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc toujours, si on a l'attitude, que sera, comme un vieux chant, là, une vieille chanson, whatever will be, si on est très fataliste, ben, si Dieu le veut, ça l'arrivera. Bien, ça l'arrivera probablement pas. C'est comme les gens qui entendent parler du baptême du Saint-Esprit, puis disent « Ah, ben c'est bien beau, c'est biblique, mais si Dieu le veut, il va le faire pour moi. » Mais vous savez, c'est les gens qui ont soif, qui vont entrer dans l'expérience, qui vont le vivre. Donc, vous êtes toujours avec moi. Donc, la croyance, Dieu distribue les dons seulement s'il veut, ça crée de la passivité. Et le fait, c'est que Dieu veut que ses saints recherchent sa volonté. Parce que Dieu veut, si les dons spirituels sont là, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse les utiliser. En fait, Dieu veut se servir de nous dans ces dons-là. Une autre croyance, c'est Dieu distribue les dons aux super saints parfaits qui sont spécialement doués. C'est une autre chose. Des fois, on peut être impressionné, on voit des grands hommes de Dieu qui prêchent l'Évangile ou des femmes de Dieu qui prêchent et qui prient pour les malades, qui vont prophétiser. Puis on se dit, ah ben eux, ils ont un appel, ils font partie des cinq ministères. Donc, c'est merveilleux, j'y crois, mais c'est pour eux. C'est pour les gens qui sont appelés au ministère. Mais vous êtes tous appelés au ministère ce soir. Le croyez-vous, ça? Donc, vous êtes tous appelés. Donc, l'idée que c'est toujours pour les superstars, c'est toujours pour les super saints parfaits, les gens qui n'ont pas de problème de caractère, qui n'ont jamais perdu les nerfs ou des choses comme ça, c'est faux, ça. Donc, les dons du Saint-Esprit sont justement ça. Ils sont des dons. Quand on reçoit un don, c'est une grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on mérite quelque chose, mais on reçoit, on est des récipients des dons du Seigneur. Donc, souvent, le résultat de tout ça, c'est la disqualification du chrétien. Le chrétien se disqualifie. Pardon. Le chrétien est là et il dit, ben, c'est très beau, j'y crois, mais c'est pour les autres. Et en fait, Dieu veut tout simplement des saints qui sont disponibles. Tout simplement. Donc, la vérité, c'est que l'Esprit-Saint distribue à chacun, à tous les enfants de Dieu, en particulier, individuellement, comme il veut. Si on poursuit encore dans « comme il veut », ici, ce n'est pas « si il veut », mais « comme il veut ». C'est une façon, des fois, où on a lu notre Bible, on a dit « OK, Dieu va le faire si il le veut. Si Dieu le veut avec moi, il va le faire. » Mais ce n'est pas « si Dieu le veut », c'est « comme il veut ». Et savez-vous, Dieu veut que les dons spirituels se manifestent. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que ces dons se manifestent. Imaginez, si, admettons, je vous disais, samedi prochain, on organise une journée, on s'en va dans une foire où il va y avoir des médiums, des dieux de bonne aventure, des gens qui vont lire les paumes de la main, tout ça. Là. Je vous raconte, il y a ça qui va se passer à Granby, admettons. Et nous, on va aller briller pour Jésus. Êtes-vous prêts? Peut-être certains d'entre vous, puis il y en a d'autres, peut-être vous dites, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Dieu nous appelle à briller dans les ténèbres, n'est-ce pas? Croyez-vous que les ténèbres, dans les foires comme ça, les foires de médiums, ah oui, certainement, il y a les ténèbres là-bas. Et savez-vous, c'est un endroit où les gens ont vraiment soif de Dieu. C'est un endroit où les gens sont ouverts au monde spirituel. Les gens cherchent. Donc, si, admettons, je vous disais ça, mais imaginez si vous arrivez là et puis vous êtes totalement dépourvu de puissance. Si le médium est plus connecté avec le monde spirituel que vous l'êtes. Imaginez. Et c'est souvent le cas parce qu'on a connu mentalement les paroles, on a connu la parole de Dieu concernant les dons spirituels. On sait que ça existe, mais est-ce que c'est normal que le monde des ténèbres ait plus de puissance ou marche dans plus de puissance? En fait, on a plus de puissance, mais on s'en sert moins. C'est juste qu'on s'en sert moins. Mais je pense que l'heure est arrivée pour nous de vraiment utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Donc, ce n'est pas « s'il veut », mais « comme il veut ». Comment savoir ce que l'Esprit de Dieu veut? À ce moment-là, si on dit « OK, mais c'est comme il veut », est-ce que j'ai un rôle à jouer là-dedans ou je dois être passif? Puis, bon, si Dieu le veut, ça va m'arriver. Bien, l'Esprit veut combler le besoin des gens. Tout simplement, comme il veut, Dieu va distribuer ses dons à certaines personnes, peu importe, mais tout le monde va recevoir quelque part, on va tous recevoir quelque chose, mais ça va être selon les besoins. Par exemple, si vous êtes en train de marcher sur la rue, puis vous voyez une personne, et peut-être que la personne est à terre, malade, et puis ça se peut fort bien, si vous êtes disposé, puis vous dites, Seigneur, comment est-ce que je peux vraiment être un outil entre tes mains pour rejoindre cette personne-là? Peut-être Dieu va vous donner une parole de connaissance ou une parole de sagesse, mais si la personne est à terre, ça se peut fort bien que Dieu va vous dire, prie pour sa guérison. Et là, le don de guérison va se manifester. Mais ça va être comme Dieu le veut. Parce que c'est pas vous. Vous n'avez pas décidé, ben moi, c'est tel don que j'ai choisi. Non, si on reste connecté avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va se révéler à nous, tout simplement. Mais l'affaire qui est importante, c'est d'être toujours dans cette pensée et dans cette disposition de cœur, je veux toujours être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et comme il veut, il va me diriger, mais il va m'équiper aussi avec ces dons-là. Parce que c'est mon équipement, vous comprenez, ça m'appartient, c'est mon équipement, mon équipage, ça fait partie de mon trousseau, si on veut. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu est en moi, et s'il y a quelqu'un qui est là, qui a un besoin, bien, comme Dieu le veut, il va se glorifier à travers ma vie. Donc, voyez-vous la différence et la nuance concernant comme il veut? C'est une chose importante que je voulais souligner. Aussi, la révélation de sa volonté pour chaque situation nous est révélée en étant un intime de Dieu. Une des choses importantes aussi concernant le ministère prophétique ou le ministère surnaturel, peu importe le type de ministère que Dieu nous donne dans le surnaturel, c'est si on a le cœur de Dieu, c'est ça qui va vraiment être notre motivation. On voit quelqu'un, puis on ne pensera pas comment on pensera pas vraiment technique. On va penser comment je peux vraiment aimer cette personne-là. Comment est-ce que je peux vraiment déverser l'amour de Dieu sur cette personne-là. Et c'est alors que les dons de l'esprit vont juste couler naturellement. Vous penserez pas, OK, là, j'ai une parole de sagesse. Ou là, j'ai une parole de connaissance. Vous ne penserez pas comme ça. L'Esprit de Dieu va simplement couler à travers votre vie, tout simplement. Vous savez, Dieu nous appelle à être naturellement surnaturel. C'est juste comme ça. On est appelé à être des frères et des sœurs, des disciples du Seigneur Jésus. Partout où on marche, on reflète la gloire de Dieu. Donc, on n'est pas en train de penser d'une façon technique. Ce qu'on veut faire, c'est juste être totalement disponible, constamment disponible, et vivre 24 heures sur 24, même quand on dort, être disponible à l'Esprit de Dieu. Vous allez dire, mais même pendant qu'on dort, absolument, parce que vous savez, Dieu peut nous donner des rêves, même la nuit. Ça, c'est merveilleux. Dieu nous donne des rêves spécifiques, en détail. Je pourrais vous raconter des histoires, mais moi, j'aime ça servir Dieu. J'aime ça servir un Dieu qui est véritable, qui est vivant, puis qui nous parle encore aujourd'hui. Donc, continuons dans le thème comme il veut. Je ne décide pas si je vais donner une parole de connaissance ou une parole de sagesse, mais c'est l'Esprit qui décidera ce que je vais donner. Ceci dit, je décide si j'aspire ou non au don spirituel. C'est-à-dire que c'est moi qui décide. Donc, l'Esprit de Dieu va décider le don qui va faire couler à travers ma vie, mais c'est moi qui décide si je vais aspirer ou non au don spirituel. Comprenez-vous? Il y a des gens qui n'aspirent pas. La Bible dit « aspirer au don spirituel ». Donc, on doit vouloir. Mais si je ne veux pas, bien, Dieu va passer à côté de moi puis il va prendre quelqu'un qui veut être utilisé de sa part. Je décide si je veux vivre en communion avec l'Esprit de Dieu, comme dans la lecture qu'on a faite l'autre jour dans 2 Corinthiens 13, 13. Je décide si je me consacre et me positionne pour entendre sa voix. C'est une autre chose. Il y a tellement de gens, des fois, qui vont dire... Et puis c'est la faute souvent de nos traditions. Bien, Dieu, là, il ne me donne pas ses dons. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Parce qu'on a toujours pensé qu'on devait être totalement passif. Puis un jour, l'onction tomberait sur nous. Puis un jour, on ferait quelque chose. Mais oui, ce jour-là vient. Mais premièrement, ça vient avec notre soif. C'est là où ça commence. Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Et je me rends disponible. Je me rends disponible pour te servir comme ça. Je décide si je vais obéir l'Esprit lorsqu'il m'invite à prendre un pas de foi également. C'est une autre chose. On peut prier, Seigneur, je veux vraiment être utile en tes mains. Je veux que tu te serves de moi. Et là, vous arrivez au centre d'achat et vous voyez quelqu'un et Dieu vous dit, va donner une parole à cette personne-là et vous refusez de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, j'ai été coupable. Je me souviens, ça, c'est une des fois où l'Esprit de Dieu est venu sur moi d'une façon tellement forte, je savais que je désobéissais Dieu. Je peux vous raconter l'histoire. Je m'en allais me faire couper les cheveux proche du Maxi à l'époque, quand j'étais un jeune homme. J'avais peut-être 10-12 ans. Puis l'Esprit de Dieu me dit, arrête puis parle avec cet homme-là. J'ai une parole à lui donner. Puis des fois, parce qu'on est intimidé, on se dit, mais je ne sais pas trop ce que je vais dire. Puis là, moi, je suis rentré, je suis passé à côté de lui. Je n'ai jamais donné de parole. Mais pourtant, Dieu m'avait donné une parole pour lui. Là, j'arrive, je me fais couper les cheveux. Mais même avant de me faire couper les cheveux, je suis assis sur les chaises en attendant mon tour. Puis là, je me souviens, là, l'onction de Dieu était sur moi, puis j'en tremblais tellement. Je savais que l'Esprit de Dieu m'appelait à faire quelque chose, mais je résistais. Avez-vous déjà résisté à l'Esprit de Dieu? Puis je résistais. Puis après, je me suis fait couper les cheveux, puis là, j'étais, OK, Seigneur, s'il est encore là, je vais aller lui donner la parole. Puis j'étais arrivé, puis il n'était plus là. Puis là, je me sentais tellement mal, puis je me suis dit, la prochaine fois, quand Dieu va me parler, je veux y aller, je vais y aller. Mais on est des êtres humains, il n'y a personne de parfait. C'est-à-dire qu'on apprend, aussi. Puis, mais moi, j'ai appris ma leçon parce que je savais, là, je me sentis tellement mal après. Puis par la suite, Dieu m'a donné d'autres opportunités. Parce que Dieu, ce qu'il recherche, tout simplement, c'est des gens disponibles. C'est ça que Dieu veut, c'est des gens disponibles. Ce n'est pas des gens qui sont parfaits. Et même, ce n'est pas des gens qui vont donner des paroles éloquentes ou même des gens qui sont impressionnants humainement. Ce que Dieu recherche, c'est des gens qui l'aiment et des gens qui sont disponibles pour lui. Puis j'ai entendu des témoignages, même il y a un frère au tout début, quand il commençait à vivre le prophétique, il est allé voir une femme dans l'église qui n'était pas vraiment sauvée. C'est une femme qui était en visite. Puis il pensait avoir reçu une parole pour elle. Puis il est allé vers elle puis il dit, « Est-ce que tu as une sœur? » Puis là, la dame est là, elle dit, « Non, j'ai pas de sœur. » Il dit, « Ah! » Là, il pensait qu'il avait entendu quelque chose de Dieu, mais il se trompait. Mais pourtant, il m'a dit, « Mais pourquoi tu me poses la question? » Il dit, « Ben, je pensais que Dieu m'avait parlé pour toi. » « Ah oui? Dieu peut nous parler aujourd'hui? » Puis là, il dit, « Oui. » Puis il a commencé à parler comme à Dieu nous parlait, puis elle a été sauvée comme ça. Vous voyez? Donc, Dieu peut se servir de n'importe quoi. Même quelqu'un qui se trompe. si vous êtes disponible, voyez, si vous êtes disponible, Dieu se cherche des gens disponibles, à l'écoute, qui veulent être utilisés de la part de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu décide les dons qui vont être attribués ou qui vont être utilisés, parce que c'est Dieu qui connaît le besoin de la personne. Si vous dites, ben moi, aujourd'hui, là, je vais faire un miracle, OK? Mais c'est pas ça que la personne a besoin. La personne a besoin peut-être d'une parole prophétique. Bien, vous passez à côté. Donc, c'est pas vous. On décide pas. C'est Dieu qui décide, mais moi, je décide si je vais me laisser, si je vais être obéissant, tout simplement. Je vais décider si j'aspire, si j'ai une ouverture de cœur, si je suis en communion avec l'Esprit de Dieu, si je me consacre et me positionne pour être utilisé entre ses mains. Est-ce que ça fait du sens, ça, tout le monde? OK. Donc, je vous fais un résumé. L'Esprit distribue à chacun, à tous les enfants de Dieu, en particulier, comme il veut, selon les besoins de l'humanité. C'est même que moi, j'ai expliqué ça. Selon les besoins. Parce que c'est Dieu qui connaît les besoins des gens. Et des fois, nous, on peut s'imaginer. Admettons, vous voyez quelqu'un qui est peut-être sur la rue, la personne est malade, vous le voyez physiquement, la personne est malade, mais Dieu vous donne une parole prophétique pour la personne parce que Dieu connaît le besoin premier. Ce n'est pas une guérison. Même si, avec vos yeux naturels, vous pouvez imaginer, ben, la personne a besoin d'être guérie, c'est évident. Mais peut-être Dieu connaît son plus grand besoin, puis c'est une parole prophétique, puis peut-être la guérison va se manifester après ça. Donc, c'est pour ça qu'on va être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et demeurer sensible. Donc, le premier point, on voulait juste voir, il y a des pièges de tradition qui nous rendent totalement passifs, puis on doit être alerte, puis avoir cette soif-là pour les choses de Dieu, pour le surnaturel. Aussi, nous sommes appelés à manifester les dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, on va aller là maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 14. Ici, ça dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Surtout à celui de prophétie. Et le mot « aspirer », c'est le mot « zélo » qui veut dire « brûler de zèle ». Brûler de zèle. Donc, Dieu ne nous appelle pas à être totalement passif et juste à être là, puis peut-être un jour, Dieu va faire quelque chose avec moi. Mais Dieu nous appelle à brûler de zèle. Si vous brûlez de zèle et vous voulez que le Seigneur se serve de vous, pensez-vous que vous allez prier à l'occasion, que vous allez prier « Seigneur, sers-toi de moi ». Allez-vous commencer à penser aux dons spirituels? Allez-vous commencer à méditer sur ces choses-là? Et c'est sûr que oui. Hein? Si vous voulez vraiment vivre ces choses-là et si vous obéissez à la parole de Dieu, aspirez aux dons spirituels, aspirez, bien, c'est sûr, on va commencer à y penser et on va se mettre en position pour y arriver. Donc, c'est brûler de zèle. Deuxième définition, c'est de désirer sincèrement poursuivre ces choses-là. Lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, être l'objet de zèle pour les autres. Donc, lutter pour. Peut-être ça va être lutter contre votre chair. Si vous voulez vraiment vivre les dons spirituels, peut-être vous allez devoir mettre des choses de côté, des choses qui vous préoccupent dans votre vie, qui volent votre temps. Donc, lutter. Peut-être votre lutte première, ça va être contre la chair. Peut-être ça va être contre les occupations dans vos vies qui viennent vous voler. Mais lutter pour ou s'occuper sérieusement de quelque chose. Si vous voulez commencer à vivre les dons spirituels, bien, vous allez vous investir dans la prière, dans la consécration. Et puis aussi, vous allez être sensible, vous allez être conscient que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu peut se servir de vous à n'importe quel moment. N'est-ce pas? Ça veut dire, si vous êtes sérieux, puis vous commencez vraiment à dire, « OK, moi j'aspire aux dons spirituels, je veux les vivre dans ma vie, je veux être un canal pour le Saint-Esprit. » Bien, quand vous allez sortir de votre maison, vous allez commencer à être conscient que peut-être l'Esprit de Dieu va vous parler pour agir et pour le représenter. Ça veut dire que ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter de l'audace. Vous allez devoir commencer à être prêt à faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Vous comprenez? Ça veut dire, si vous êtes à l'épicerie, puis l'Esprit de Dieu vous dit à la dame, admettons à côté de toi, une telle parole, allez-vous être prêt à le faire? C'est là, hein? C'est là où c'est plus compliqué. Mais allez-vous être prêt à le faire? Et je vous ai raconté, il y a quelques semaines, comment que ça s'appelait? Rocky Road. Vous vous rappelez du témoignage Rocky Road? Puis je vais vous partager ça quand même ce soir parce que pour la série, ça va être bon. Il y a un frère qui aime le Seigneur, puis il voulait vraiment être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Puis il dit, Seigneur, parle-moi, tu sais, sers-toi de moi comme tu veux. Et Dieu lui dit, tu vas appeler tel frère qui a été blessé dans les églises. Appelle-le et je te donne deux mots pour lui, Rocky Road. Rocky Road. Combien d'entre vous, vous savez, c'est une sorte de crème glacée? Sauf que là, Rocky Road. Sauf que là, il dit, ben Seigneur, il dit, c'est un petit peu ridicule, c'est une sorte de crème glacée, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais Dieu lui dit, Rocky Road. Sauf que là, il appelle le frère en question qui avait été blessé. Et puis Dieu lui donnait une parole spécifique pour sa vie. Je crois que Dieu l'appelait à se rapprocher des choses de l'Esprit de Dieu, mais il avait été blessé, donc il était éloigné. Mais la seule façon qu'il était pour pouvoir recevoir cette parole-là, c'est s'il savait que Dieu était vraiment celui qui envoyait le message, qui avait besoin de pardonner tout ça. Et puis, pardonner celui qui l'avait blessé. Sauf que là, il se dit, il l'appelle, il dit, bien, j'ai à cœur de partager mon frère des choses que j'ai reçues. Puis, sauf que le frère, il est au téléphone, il l'écoute, il dit, bien, Dieu m'a montré que tu étais blessé. Puis après, le frère, il dit, ben là, voyons, il y en a plein de chrétiens, on est tous blessés à quelque part, là, tout le monde a vécu des blessures, là, qui étaient totalement fermées, il n'y avait pas d'ouverture. Puis il dit, ben, il dit, si je te parle justement de Rocky, est-ce que ça dit quelque chose? Il dit, ben, il dit, oui, justement, il dit, c'est la personne qui m'a vraiment blessé. Mais là, il a commencé à parler de Rocky, mais il n'osait pas dire Road parce qu'il dit, ben, Rocky, ça doit être de Dieu, mais Road, ça fait tellement pas de sens. Road, c'est comme une sorte de crème glacée. Puis là, quand il dit, oui, justement, c'est celui qui m'a blessé, il s'appelait Rocky. Il dit, ben, Dieu veut que tu le pardonnes, tout ça, parce que Dieu ne veut pas que tu aies des Rocky Road dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu aies des chemins rocailleux dans ta vie. Parce qu'en anglais, Road, ça nous parle de chemin. Et sauf qu'il dit, Dieu ne veut pas que tu aies des Rocky Road dans ta vie. Puis là, il dit Rocky Road. Il dit, mais c'était son nom. Sauf que même une sorte de crème glacée, Road, il l'écrivait pas comme le chemin, c'était R-H-O-D-E, Road, Rocky Road. Donc, le Seigneur peut déposer en vous des informations comme ça, puis vous êtes là, puis vous dites, mais c'est ridicule. Mais si vous obéissez à ce que l'Esprit de Dieu vous dit, puis vous parlez, la personne peut vraiment être bénie et rencontrée de sa part, voyez-vous? Mais ça prend juste notre disponibilité à être ouvert à ce que Dieu va faire, et ouvert à ce que Dieu peut nous parler. OK. Donc, nous sommes appelés à manifester les dons spirituels et ça commence avec ce désir, ce zèle. Et puis, si on continue, OK, la vie surnaturelle est le plan de Dieu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vu des choses que vous connaissez, le zèle, que Dieu nous appelle à avoir le zèle. Mais la vie surnaturelle que Dieu nous appelle à vivre, elle est surnaturelle. Dans Joël 2, 28, vous connaissez le texte. Ça nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Donc, on connaît le cœur de Dieu, que Dieu veut se servir de nous et c'est le plan de Dieu pour nous. Donc, on va avoir des songes, des visions, des paroles prophétiques, toutes ces choses-là. Aussi, la vie surnaturelle ou le ministère surnaturel est un reflet de notre communion avec le Seigneur. Donc, si vous êtes là ce soir puis vous dites, OK, je veux vraiment commencer à opérer dans ou marcher dans les dons spirituels, dans le surnaturel dans ma vie, votre vie privé, OK, dans votre temps de communion, ou en fait même votre ministère dans les rues ou votre ministère surnaturel, c'est toujours un reflet de votre vie privée, de votre vie de communion avec Dieu. Ça a beaucoup rapport avec votre temps personnel avec le Seigneur. Si on va ensemble dans Jean, venez avec moi dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, on va aller au verset 19. Jean, chapitre 5 et le verset 19. Jésus, vous savez, a toujours été notre modèle parfait. Ça nous dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Voyez-vous ici, le reflet de notre communion avec le Seigneur, vraiment, c'est justement ça. Notre ministère, le ministère surnaturel, c'est un reflet de notre vie personnelle, notre vie, notre communion avec le Seigneur. Et si vous, on a lu ensemble ici ce récit où le Seigneur Jésus recevait par l'Esprit, ici ça dit, tout ce que le Père me montre. Vous voyez, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus recevait des visions. Il recevait des visions de la part du Père. Et puis, c'est la même chose que Dieu nous appelle à vivre. Si on est dans notre temps de communion avec le Seigneur, on prie, admettons, vous prenez du temps à part, vous priez. Et puis, tout au long de la journée, c'est sûr, on reste dans un temps de prière comme ça. Mais vous êtes en train de prier. Et quand vous priez, le Seigneur, le Père commence à vous montrer des visions. L'Esprit de Dieu se révèle à vous, commence à vous montrer des choses. En fait, le prédicateur qui va venir bientôt à l'église, Jeremy Nelson, qui s'appelle, avant d'aller prêcher, il prend toujours du temps avec Dieu pour que l'Esprit de Dieu lui révèle des choses. Dieu lui montre, OK, il va y avoir telle personne habillée d'une certaine façon, et puis tu vas prier pour cette personne-là. Ou il va avoir deux sourds, trois muets, puis il commence à recevoir tout ça en vision avant de venir à l'église et prêcher. C'est merveilleux, ça, n'est-ce pas? Et si on va dans Jean 5, verset 30, c'est dans le même chapitre, Jésus a dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, si on reprend même le verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Donc, si Jésus, il disait, « Il ne peut rien faire de lui-même. » Qui sommes-nous pour essayer de faire des choses de nous-mêmes? Hein, c'est ça. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, Jésus, on sait, avait des visions. Il voyait. Verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Sauf que Dieu va nous donner des visions. Parce qu'on est appelé à faire le ministère comme Jésus faisait le ministère, n'est-ce pas? Amen. Et puis le verset 30, ça dit, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. J'entends. » Donc, il entendait la voix de Dieu également. Donc, nous pouvons recevoir une onction quand un serviteur de Dieu prie pour nous, mais nous ne pouvons pas recevoir sa relation ou sa communion avec Dieu. Voyez-vous la différence? Des fois, on est là et on dit, « OK, je veux recevoir une touche, une onction prophétique pour commencer à voir des choses, commencer à vivre le surnaturel. » C'est beau vouloir recevoir une onction comme ça, mais on ne peut jamais recevoir la vie de consécration de quelqu'un d'autre. On ne peut pas transférer notre consécration et dire, « Voici, tu viens de passer 10 heures dans la prière. » Ça ne marche pas comme ça. Hein? Peut-être certains d'entre vous, vous aimeriez ça. Là. Mais la consécration, c'est une chose personnelle. Et puis, comme on passe du temps avec Dieu, c'est là où on commence à vraiment vivre des choses dans le surnaturel, des choses qu'on ne peut pas faire par nos propres forces. Donc, c'est ça. Ici, la vie surnaturelle est le plan de Dieu, le reflet de notre communion avec le Seigneur. La vie surnaturelle est également rendue possible en recevant des révélations que seul Dieu connaît. Et dans Amos 3:7, ça nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et on sait que ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais on comprend également que dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu continue à se révéler à ses prophètes. On comprend aussi, comme vous savez, il y a une différence entre le ministère prophétique et l'office du prophète. On peut tous prophétiser sans être prophète. Donc, pensez pas, OK, bien, celui qui va prophétiser est forcément un prophète. Non, le prophète va prophétiser, mais le frère dans l'Église peut également prophétiser sans être un prophète, sans être dans l'office. Et puis, il va y avoir des révélations comme ça, des choses cachées. Je pourrais vous donner plein de versets, mais je vais poursuivre. Aussi, la vie surnaturelle est rendue possible en valorisant le surnaturel. Vous verrez que ceux qui vivent le surnaturel, ce sont des gens qui valorisent le surnaturel. Quand on y croit et on valorise, on met une valeur dans les choses surnaturelles avec Dieu. Les gens qui méprisent le surnaturel, bien, ils ne vivent pas rien de surnaturel avec Dieu. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Si on roule les yeux à chaque fois qu'on entend parler d'une prophétie, bien, on risque de ne pas avoir ces dons-là se manifester dans nos vies. Je me souviens une fois, je racontais des témoignages, des choses que j'avais vécues avec Dieu, où Dieu m'avait parlé. Puis ça, j'étais adolescent, puis je racontais ça à une sœur dans l'église. Elle m'écoutait, puis je pensais qu'elle était intéressée. Elle m'écoutait comme ça, elle m'écoutait. Puis à la fin de mon témoignage, elle dit, « Comme ça, tu crois que Dieu parle vraiment? » Là, j'étais comme, j'étais sous un choc, c'était comme si quelqu'un m'avait fait avec des cymbales. J'étais comme, aïe, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu nous parle. Ça fait que si on méprise le surnaturel, on risque de vivre très peu de choses. Donc, c'est rendu possible en valorisant le surnaturel. Dans Jean 6, 63, ça dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, on veut valoriser les paroles de Dieu, on veut valoriser le surnaturel de Dieu et réaliser que notre chair ne sert à rien. Même si on met beaucoup d'efforts dans des choses, si on peut juste valoriser plutôt l'œuvre de l'esprit à travers nos vies, c'est là où on va voir Dieu se glorifier. Dans Zacharie 4:6, vous connaissez le texte, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, on peut valoriser l'Esprit de Dieu. Et dans Matthieu 6:21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si on veut vivre une croissance dans les choses de l'Esprit, on va mettre une valeur également dans ces choses-là. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, on va passer du temps à méditer sur ces choses-là. J'écoutais un prédicateur qui disait, il prenait des fois des heures, juste dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1, il a dit, j'ai pris des heures à méditer sur ce verset-là, Apocalypse 4:1, parce qu'il valorise l'expérience de la Bible. Il valorise le surnaturel. Puis il disait, si Jean a vécu des choses comme ça, si Jean a pu monter et voir des choses glorieuses dans le ciel, il dit, moi, je crois que c'est possible pour moi également. Donc, c'est ça. Donc, on valorise le surnaturel. Et aussi, je vais vous inviter, venez avec moi dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Concernant les choses surnaturelles, si vous avez déjà prophétisé, bien l'onction de Dieu est certainement venue sur vous, et puis vous avez été capable de parler au nom du Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont jamais prophétisé, et peut-être vous pouvez vous poser la question, mais comment ça marche ça? Et on va voir ensemble ici, dans 1 Samuel chapitre 10 et versets 10 et 12, qu'il y a vraiment une facilité qui s'installe si on est dans un rassemblement prophétique. Puis je vais vous expliquer. Mais on peut lire ensemble. 1 Samuel chapitre 10, versets 10 à 12. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qui est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il parmi les prophètes? » Quelqu'un de Gibéa répondit, « Et qui est leur père? » De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes? » Donc ici, on voit le moment que Saül est arrivé avec cette troupe de prophètes, que l'onction prophétique est venue sur lui. Et c'est vraiment une réalité. L'onction prophétique se manifeste. Et puis, on peut expérimenter c'est comme une percée qu'on peut vivre dans notre propre vie lorsqu'on arrive, puis il y a vraiment une onction prophétique dans une place. Je me souviens la première fois que j'avais été invité dans un temps de prière prophétique avec Faithin. J'étais un petit peu intimidé parce que j'avais jamais vécu ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais le moment que je suis arrivé dans la maison là-bas, je vous ai déjà raconté des fois des histoires concernant les temps que j'ai eus dans la prière là-bas à Oshawa. Ça s'appelait la Maison Blanche. C'est pas vraiment la Maison Blanche de Washington, là, mais c'est un bed and breakfast, la Maison Blanche. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment ressenti que l'onction de Dieu était là sur moi pour commencer à prophétiser. Et je me suis mis à prophétiser avec tous ceux qui étaient là. On était peut-être une dizaine à l'époque. Et puis, Faithin avait dit, bon, on va juste commencer à prier en esprit et puis on va voir ce que le Seigneur va faire. Tout simplement. Sauf qu'on était là dans un salon, s'est mis à prier en esprit. Et là, une onction prophétique est venue. Je me suis mis à prophétiser. Tout le monde s'est mis à prophétiser. Et puis, c'était tellement précis. C'était surnaturel. J'ai jamais vécu une expérience aussi surnaturelle que ça dans ma vie, autre que ma visitation. Puis là, j'étais en train de prophétiser. Et à la fin de la journée, on s'est présenté pour dire qui on était puis qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Puis c'est là qu'on a vu, aïe, il t'a prophétisé ça. Comme il y avait un frère, quand il s'est mis à prophétiser sur moi, il a commencé à décrire ma visitation que j'avais eue en 2004. Mais il n'y a personne qui pouvait savoir. Vous comprenez? Ça, c'est bénissant. Quand quelqu'un arrive, il se met à prophétiser. Ou là, je suis en train de prier en esprit. Dieu me donne une vision. Puis comme j'ai une vision, la sœur Faithin commence à prophétiser et elle décrit ma vision que je suis en train de voir. Ça, c'est encore merveilleux. Bon, là, je n'ai pas choisi les dons. On s'est mis à prier en esprit. Et on s'est positionné dans la foi, on s'est dit, Dieu, tu vas te glorifier parmi nous. On lui a donné du temps, on lui a accordé du temps pour qu'il se glorifie. Et là, on s'est mis à prophétiser comme ça, à avoir des visions, des paroles, on a prié les uns sur les autres. Puis c'était juste béni. C'était super béni. Et j'ai vécu ce temps-là glorieux. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est possible au Québec? Pensez-vous? Où il y a une ligne de démarcation, puis le Québec, c'est non, on est exclu. Non, le surnaturel est disponible pour nous, mais c'est une question de se positionner dans la foi et avoir soif. Je peux vous dire, il y en a plus. Il y a plus que ce qu'on a vécu, mais il y en a... Puis je dis gloire à Dieu, puis merci Seigneur pour ce qu'on a déjà vécu. On ne veut pas mépriser du tout ce qu'on a vécu à présent, mais il y en a beaucoup plus. Parce qu'il y a un monde qui se perd en ce moment, puis Dieu veut nous équiper. Dieu veut que vous soyez équipés avec les dons spirituels et pas juste dire « Ah oui, j'y crois, oui, c'est écrit dans la Bible, oui, mais je veux que le Seigneur se serve de moi pour être son porte-parole. Je veux être ses mains pour prier pour les malades. Moi, je veux faire les œuvres que Dieu m'appelle à faire, tout simplement. » C'est tellement simple d'une certaine façon. Dieu nous appelle à être naturellement surnaturel. OK. Donc, on a lu 1 Samuel 10 à 12, juste pour vous illustrer ici qu'il y a une onction prophétique qui s'installe, puis quand on arrive, on devient comme une autre personne, comme Saül. Il est devenu une autre personne, même s'il n'était pas prophète, mais on a eu ensuite le proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes à cause de ça? Mais il est arrivé, et puis l'onction est venue sur lui. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Quand on est dans une réunion, admettons, puis vraiment, il y a une onction prophétique, ça devient plus facile. Gloire à Dieu pour ça. L'expérience spirituelle aussi. Bon, la vie surnaturelle est certainement une expérience spirituelle que l'on peut apprendre. Puis c'est là où, dans le corps de Christ, où on n'en parle pas vraiment, puis on ne réalise pas que c'est une réalité, mais c'est une chose qui se développe. Comme tous les dons du Saint-Esprit, c'est un don parfait qui vient de Dieu, mais nous sommes des vaisseaux imparfaits. Avez-vous réalisé? On est imparfait. Ça fait qu'il y a un apprentissage là-dedans aussi. Donc, la réception vient de Dieu, bien, le don vient de Dieu, mais la façon qu'on va distinguer, OK, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, ça prend de la maturité et c'est à force de prophétiser ou c'est à force d'exercer le ministère qu'on arrive à une maturité. Mais là où on se trompe, puis ça, on fait fausse route, on s'imagine, parce que c'est un don parfait de Dieu, là, obligatoirement, moi, là, quand je vais faire quelque chose au nom de Dieu, il faut que ça soit parfait. Puis si je me trompe, là, je vais être appelé un faux prophète. Puis c'est ça, on a tellement de pression que finalement, on ne fait rien. Avez-vous déjà remarqué ça? Moi, c'est ça que j'ai remarqué. C'est qu'on veut tellement être parfait, on ne se donne pas aucune chance de faire des erreurs. Mais ce que Dieu veut qu'on fasse pendant cette saison, cette série sur le ministère surnaturel, c'est qu'on se laisse une place où on peut être à l'aise et on peut être en sécurité. Vous êtes dans une place en sécurité ici, où vous pouvez recevoir de Dieu et être à l'écoute de Dieu. Et là, lorsque viendra le temps, vous allez partager les choses que Dieu vous montre ou ce que Dieu dépose dans vos cœurs. Si vous vous trompez, il n'y a personne qui va être lapidé. C'est ça qui est important. Personne ne va être lapidé. Parce que si vous n'avez jamais l'opportunité de faire du ministère auprès de vos frères et vos sœurs qui vous aiment, imaginez quand vous allez dans le monde, puis si vous n'avez jamais eu d'expérience, bien, vous risquez d'avoir des difficultés plus tard. Vous comprenez? Donc, c'est correct ça. Puis on va voir ensemble ce que je veux dire. Je vais vous l'illustrer ici avec la parole de Dieu. Donc, la révélation là, concernant l'expérience spirituelle, c'est que nous apprenons et nous nous développons dans le prophétique. C'est une chose qui se développe. Le don est reçu, mais c'est personnellement la façon qu'on travaille dans ce ministère-là se développe, comme au niveau de la guérison divine. Vous savez, quand on prie pour le malade, bien, le don est parfait, le don coule à travers une personne, mais je me souviens même, un évangéliste a appris de Oral Roberts comment exercer le don des guérisons. C'est d'une certaine façon, non, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Il y a des choses où on peut grandir et apprendre. Mais on s'imagine des fois, non, si c'est Dieu, j'ai rien à apprendre, ça va juste arriver. Mais on attend, puis il n'y a rien qui se passe. Bon. Vous venez avec moi dans Hébreux 5, 14. Hébreux, chapitre 5, verset 14. En fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on apprend à être sensible à la voix de Dieu. Est-ce que c'est biblique, ça, apprendre à être sensible? Puis le plus qu'on passe de temps avec le Seigneur, le plus qu'on va chercher sa face et le plus qu'on va prendre des pas de foi pour répondre à son appel lorsqu'on croit que Dieu nous parle, mais c'est là où on va devenir de plus en plus habitué. Et quand Dieu va nous parler, bien, on va discerner sa voix. Vous savez, dimanche, j'étais en train de rentrer dans un restaurant, puis Dieu dépose en moi une parole, j'entends sa voix, puis je vous donnerai pas l'anecdote, mais j'arrive dans, comme au restaurant dimanche après l'église, Dieu me dit, plus jamais tu vas vivre telle affaire. Je rentre dans le restaurant, puis j'ai l'exaucement dans le restaurant, une chose que je ne m'attendais pas depuis 10 ans. Je peux vous dire, c'est que c'est merveilleux. Dieu va juste nous déposer des choses, puis là, on arrive. Hein, pourquoi Dieu me dit ça là? Mais je ne sais pas, mais j'ai eu l'exaucement, la confirmation dans le restaurant. Vous êtes là, mais je ne comprends rien parce que je ne veux pas vous l'illustrer. Je ne donnerai pas l'anecdote, mais pour moi, c'était comme, aïe, Dieu nous parle, hein, c'est merveilleux. OK, dans Hébreux 5, 14, ça nous dit ici, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc ici, on parle d'un discernement biblique. OK, si vous lisez la Bible, vous arrivez à une place de maturité où vous pourrez aussi discerner la vérité, l'erreur de l'erreur. Mais là, si on lit dans la Bible de Sommer, ça dit « Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté, on parle ici des facultés spirituelles, à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Puis par la pratique, c'est ça que je voulais vous voir. Est-ce qu'on est en train de pratiquer? Bien là, on est en train d'apprendre des choses, on est en train de se positionner dans la foi pour vivre des choses. Mais quand on dit par la pratique, en fait, quand Dieu nous parle, on est censé simplement répondre au Seigneur en disant « Oui, Seigneur ». Si Dieu vous donne une parole de connaissance ce soir, Dieu vous donne une parole de sagesse, peu importe ce que Dieu va vous donner, mais vous êtes là, réceptif à ce que l'Esprit de Dieu vous parle. Quand Dieu va vous dire, dis ceci, bien là, si vous obéissez, bien gloire à Dieu, on va se réjouir. Puis si vous vous trompez, gloire à Dieu aussi. Pas parce que, hallelujah, on veut que vous soyez toujours en train de vous tromper. C'est pas ça l'idée, mais c'est que vous arriverez à discerner la voix de Dieu. Si vous ne faites jamais rien, en d'autres mots, c'est ça, la pratique, c'est d'obéir quand Dieu nous dit de parler ou faire quelque chose. Mais si on ne le fait jamais parce qu'on a toujours peur de se tromper, on ne pourra jamais se pratiquer, on ne pourra jamais se développer. Vous comprenez? Sauf que c'est ça, c'est qu'à force de le faire, puis ce que j'ai trouvé le fun il y a quelques semaines, j'ai juste mentionné quelque chose comme ça concernant le prophétique, puis sans mentionner personne, il y a un frère qui t'a donné une parole, un mot à une sœur. Elle a éclaté en sanglots. Pourquoi? Parce que c'était le mot que cette sœur-là avait besoin d'entendre. Tout simplement. Puis des fois, on dit, ben c'est juste un mot. Mais on ne sait pas si c'est le mot, la parole que la personne a besoin, qui change sa vie, qui vient vraiment la rencontrer. Mais gloire à Dieu. Puis si vous donnez une parole, admettons, vous dites un mot, puis la personne est comme, ah, ben ça se peut que vous vous êtes trompé. Ça se peut. Mais il n'y a personne qui va être crucifié, comme on a dit, ou lapidé. C'est correct, mais l'affaire, c'est que si on ne le fait jamais, on n'arrivera jamais à discerner ou à s'habituer. Donc, il est nécessaire d'avoir un endroit sécuritaire où nous pouvons grandir dans le ministère prophétique. Puis quand on parle du ministère prophétique, on parle ici, bon, on a prié, on a cherché la face de Dieu, on se positionne pour que le Seigneur se serve de nous comme il veut. Et là, ensuite, on peut dire, bien, je ressens telle chose, ou j'entends. Dieu peut nous parler d'une façon, d'une voix audible, mais la majorité du temps, c'est dans notre esprit. Dans mon esprit, j'entends ceci, ou je vois, quand je prie, peut-être Dieu va vous donner des visions. On ne sait pas comment Dieu va le faire, mais Dieu, ce soir, moi, je crois, il va se servir de vous, il va se glorifier. Donc, il est nécessaire d'avoir un endroit sécuritaire où nous pouvons grandir. J'ai dit, il est nécessaire, bien, c'est une bénédiction. Ce n'est pas absolument nécessaire parce que plusieurs personnes n'ont jamais eu l'opportunité que vous aurez. Ils ont juste comme ils ont commencé dans les rues comme ça, puis ils ont découvert, ils ont exercé le ministère sur dans les rues. Et puis, gloire à Dieu, j'aurais plutôt dû écrire, il est bénéfique. C'est une bénédiction pour nous, mais d'avoir un endroit sécuritaire, c'est moins douloureux, mais gloire à Dieu, c'est possible aussi autrement. Si vous vous trompez, vous n'êtes pas un faux prophète. C'est ça l'autre affaire. C'est que les gens pensent, ben là, si je dis quelque chose, puis je dis, ben je crois que le Seigneur me dit ceci, si je me trompe, je suis un faux prophète. Avez-vous déjà pensé comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Non, vous ne serez pas un faux prophète. Vous n'aurez pas publié, là, ainsi parle le Seigneur. Telle chose va arriver, telle date, telle heure. C'est pas ça là, qu'on est en train de faire. On veut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, verset 9, ça dit, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » On prophétise juste une partie de la connaissance de Dieu pour la personne. Donc, on ne connaît pas toute chose. Et puis, dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22, ça dit, « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Donc, quand vous donnez une parole à quelqu'un, bien, mettez-vous dans la foi, certainement, que le Seigneur va se servir de vous. Et aussi, quand on donne une parole, comme on va voir aussi dans 1 Corinthiens 14, ce qu'on veut faire, c'est bâtir notre frère ou notre sœur. Dieu ne nous appelle pas à détruire les gens par des paroles prophétiques. Une des raisons pourquoi les gens, souvent, ont eu peur ou il y a eu le mépris du ministère prophétique, c'est qu'il y a eu tellement d'abus. Il y a eu tellement d'abus dans le monde prophétique, sauf qu'il y a eu un certain mépris, puis les gens disent « Ah non, je veux rien savoir de ça », parce que les gens ont parfois utilisé les dons prophétiques pour manipuler les gens. Dieu ne nous appelle jamais à manipuler les gens. La manipulation, c'est de la sorcellerie. Quand on parle de manipulation, c'est justement ça. C'est d'essayer de manipuler les gens pour diriger les gens. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu dirige l'enfant de Dieu dans Romains chapitre 8. C'est-à-dire qu'on est censé être dirigé par l'Esprit de Dieu. Si vous recevez une parole pour quelqu'un, dans 1 Corinthiens 14, au verset 3, il est écrit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » C'est ça le mandat que nous avons dans la prophétie simple. C'est simplement exhorter, consoler, bâtir. Édifier, ça nous parle de bâtir. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à bâtir avec nos paroles. On n'est pas là pour amener une correction, puis on n'est pas un prophète de l'Ancien Testament. Puis non plus, si vous avez l'appel de l'office du prophète, bien ça va être autre chose. Mais ce soir, on va se concentrer juste sur l'édification. OK. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que on a vu certaines choses certainement qui sont importantes, donc concernant la vie spirituelle, c'est le plan de Dieu qu'on soit surnaturel, c'est le reflet de notre communion avec le Seigneur, c'est rendu possible par des révélations, rendu possible également en valorisant le surnaturel, facilité quand on est dans un rassemblement prophétique, et l'expérience spirituelle aussi est une chose qu'on peut valoriser, le fait où on peut se développer en frères et sœurs. Bon, on va voir maintenant les blocages à la vie surnaturelle. Parce que ce soir, peut-être on a vu des choses, puis vous dites « OK, moi je crois ça », mais peut-être vous avez des blocages. Et avant de faire le ministère, ce qu'on veut faire, c'est enlever les blocages possibles. Donc, je vais juste relire 1 Corinthiens 14, ça nous dit… Verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, aspirez. Et puis même en lisant ma Bible aujourd'hui, au verset 12, ça dit, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels. » Déjà, l'apôtre Paul, il voit ici que ces gens-là, ces frères-là, aspiraient aux dons spirituels, « Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez en posséder abondamment. » Voyez-vous, donc, ici, les dons spirituels, on est censé vouloir les vivre, on aspire à vivre, on veut vivre ces dons-là et on cherche à en posséder avec abondance. Ce n'est pas juste le minimum, mais on cherche à posséder ces dons-là avec abondance. C'est intéressant ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas juste « oui, je suis ouvert ». Il y a une différence entre être ouvert et rechercher. Si on recherche, on va prier pour que le Seigneur se manifeste à travers nos vies. Quand on aspire vraiment, là, on va prier là-dessus. On va dire, « Seigneur, sers-toi de moi. Je veux vraiment être utile en tes mains. » Et le Seigneur va le faire. Gloire à Dieu. Les blocages maintenant à la vie surnaturelle. Il y a la boue du péché qui vient obstruer la vision spirituelle. Si vous êtes ancré dans le péché puis vous voulez être surnaturel, bien, vous avez besoin premièrement de vous repentir. Tout simplement. Une des choses, si vous êtes consacré à Dieu, okay, vous passez du temps avec Dieu, à chaque jour vous priez, vous cherchez sa face, mais gloire à Dieu, vous êtes vraiment dans une bonne position pour recevoir des choses qui viennent de lui. Mais si vous passez à voir des choses avec vos yeux qui sont contraires à la volonté de Dieu, bien c'est ça que Satan veut. Il veut que vous voyez des images impures, il veut aussi que vos oreilles entendent des paroles impures. On appelle en anglais « gates », des portes, et c'est comme des portes que vous ouvrez, des portes ou des en tout cas, gates, des barrières ou… En tout cas, c'est ça. Mais c'est que vos yeux sont une porte d'entrée pour les choses que vous recevez, vos yeux, vos oreilles. Donc, si vous êtes toujours en train d'entendre des choses du royaume des ténèbres, vous voyez des choses, quand viendra le temps d'être surnaturel, ben peut-être vous allez être connecté à mauvaise source parce que vous êtes toujours en train de baigner dans le monde des ténèbres. Mais si vous voulez être surnaturel dans le royaume de la lumière, ce que vous avez besoin de faire, premièrement, c'est vous assurer d'être vraiment pur devant Dieu, vous repentir de vos péchés et aussi vous entretenir dans les choses de Dieu constamment, être constamment dans l'onction, toujours être à la recherche de la présence de Dieu. Parce que quand ça se passe, quand vous allez prier, vous allez prier puis chercher la face de Dieu, et là, le Seigneur va commencer à utiliser votre vision spirituelle, votre vision surnaturelle pour vous montrer des choses. Mais si, admettons, vous avez une fenêtre, OK? Vous avez une fenêtre, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous prenez puis vous mettez toujours de la boue sur la fenêtre. Mais après un bout de temps, là, c'est dur de voir dehors. Vous comprenez? Parce que vous avez mis plein de boue dedans. Ça veut dire que ce que vous avez besoin de faire, c'est laver les fenêtres. Mais c'est par le sang de Jésus, tout simplement. Puis c'est de prendre un temps aussi pour baigner dans la présence de Dieu, baigner dans l'onction. Et là, vous aurez une vision surnaturelle. Vous aurez la vision de Dieu pour votre vie. Donc, la boue du péché. Il y en a qui vont dire, « Ben moi, je suis charnel. Tout ce que je vis, c'est de l'impureté. » Bien, vous avez besoin de faire le ménage là-dessus. Hein? Ça, c'est bien. 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est pour ça qu'on veut vraiment protéger notre spiritualité, notre vie à ce niveau-là. C'est super important, mais moi, je suis certain que plusieurs chrétiens qui ne vivent rien parce qu'ils ils prêtent leurs yeux au monde des ténèbres. Mais si on est prêt aujourd'hui, on peut se repentir et puis se positionner dans la foi pour vivre le surnaturel de Dieu. Aussi, une autre chose, bon, quels sont les blocages? Bon, la boue du péché et la honte et le sentiment d'indignité. Dieu ne peut pas m'utiliser car je suis si indigne. On l'a vu souvent à l'Église, la pensée qu'on est indigne, oh, je ne mérite pas si je suis un pauvre pécheur. Mais peut-être si vous marchez toujours dans le péché, c'est normal de se sentir condamné. Hein? C'est normal parce que si vous êtes toujours dans le péché, ben là, vous vous sentez mal. C'est normal parce que Dieu vous appelle à vous repentir tout simplement. OK? Mais si vous êtes déjà pur dans votre chemin avec le Seigneur, vous vous êtes repenti, puis vous avez toujours le sentiment de condamnation, mais réalisez, ça, c'est pas Dieu qui veut que je me repente, c'est pas l'appel à la sainteté, mais c'est le diable qui veut me condamner. Donc, faites le tri, parce qu'il y a plusieurs personnes, je suis certain ici, là, que Dieu veut se servir de vous, Dieu veut vous équiper ce soir. En fait, vous avez déjà l'Esprit de Dieu, vous êtes déjà équipé, mais là, c'est à vous de relâcher ce que Dieu vous donne. Et je suis certain que certains d'entre vous, vous pourriez marcher là-dedans, mais à cause, vous avez un sentiment d'infériorité. Je suis indigne. Ben, les autres sont corrects, mais moi, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Je ne suis pas assez saint. Finalement, ça va toujours être pour les autres. Mais dans la parole de Dieu, dans Romains 8:1, ça dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, il faut mettre ça de côté. Il ne faut pas vivre dans la honte. Et il ne faut pas avoir des sentiments d'intimité. Parce que le surnaturel, c'est sûr que vous allez entendre parler, mais vous ne pourrez jamais y arriver parce que vous avez toujours pensé « je ne suis pas assez bon ». Je ne sais pas si plusieurs personnes ici, peut-être vous avez déjà pensé comme ça, mais il ne faut pas penser comme ça. Parce qu'il n'y a personne assez bon pour quoi que ce soit. On n'est pas assez bon, mais c'est toujours par la grâce de Dieu que nous sommes là ce soir. Dans Galates 2,16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus. » Donc, on sait que c'est par la foi qu'on est purifié et justifié. C'est pas par les œuvres. OK, un autre blocage, ce serait l'incrédulité. L'incrédulité, j'ai parlé des gens qui roulent leurs yeux, mais je roule les yeux quand j'entends parler du prophétique, ou je ris. « Ah, ouais, les autres prophétisent. Ah. » Puis là, on rit, puis on roule les yeux. On pense que c'est ridicule. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 22, ça dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Pourquoi pensez-vous que Dieu nous dit « Ne méprisez pas les prophéties » Bien parce qu'à quelque part, ça va être possible, hein? Et puis ça va peut-être être tentant aussi de marcher dans le mépris du prophétique. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir fait des fausses prophéties aussi. C'est pour ça, des fois, on a peur. Des fois, il y a eu la peur qui est entrée comme ça parce qu'il y a des gens qui ont donné des fausses prophéties, puis on ne veut pas faire partie de cette gang-là de bizarres. Peut-être que vous avez déjà pensé comme ça. Mais moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui prophétisent tout le temps toutes sortes d'affaires, puis ça n'arrive jamais, puis là, on est comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont trompés. Peut-être que ces gens-là se sont trompés parce qu'ils n'ont jamais eu assez d'expérience, puis ils n'ont jamais eu des gens assez aimants pour leur dire « Hey, mon frère, tu sais, ici, c'était bon, cette partie-là, mais l'autre partie que tu as donnée, c'était pas vraiment juste. » Mais peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'expérience parce que tout de suite, on les a crucifiés puis on a dit « Hey, t'es un faux prophète. » Ça fait que là, ils sont partis d'une église, puis voilà. T'sais, on ne sait pas là, le contexte. Ça fait que Dieu nous dit, ici, dans le texte, 1 Thessaloniciens 5, ne méprisez pas les prophéties. ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire examiner. Ça veut dire on doit juger et discerner. Et puis, admettons, quelqu'un donne une parole. Ce soir, quelqu'un vient me donner une parole, puis je suis vraiment béni par ça, mais je peux me réjouir. Et puis, si la personne se trompe, on doit toujours marcher dans l'amour aussi, puis se dire, ben, je ne veux pas détruire la personne, je veux l'encourager à poursuivre, à continuer là-dedans, à continuer à chercher la face de Dieu. Et puis, la prochaine fois, peut-être la personne va avoir plus d'exactitude, et puis ça va être merveilleux pour ça. Mais c'est ça, ce que je voulais dire concernant le prophétique, il y a eu beaucoup d'abus, mais une des choses, c'est que quand il y a de l'abus ou quand il y a de l'imitation, c'est parce qu'il y a toujours du vrai. Vous savez, dans le monde, des fois, même dans l'Église, les gens vont dire, quand on commence à marcher dans le surnaturel, des fois, les gens vont accuser ceux qui marchent dans le surnaturel, ils vont dire, bien, vous êtes dans le nouvel âge, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans ci, puis ça. Mais comprenez ceci, c'est que Satan imite toujours Dieu. Satan va toujours imiter les choses qui sont vraies, qui méritent d'être imitées. Vous savez, on ne voit jamais des dollars de 5 dollars imités. C'est plus des 100 dollars qui vont être imités ou des 20 dollars, n'est-ce pas? Mais ils vont pas nécessairement prendre le temps d'imiter un 5 dollars. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que 5 piastres, ça vaut moins peut-être l'effort que d'imiter un 20 dollars ou un 100 dollars. Mais si Satan prend le temps d'imiter toujours tout ce que Dieu fait, tous les dons du Saint-Esprit, on a une imitation dans le monde occulte. Mais ce n'est pas parce que dans le monde occulte, ils font des choses que dans le corps de Christ, on ne doit rien faire. Pareillement, vous savez, dans le monde occulte, il y a des sorcières qui vont prier pour les malades. Vous savez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vu qu'il y a des gens dans le monde occulte qui prient pour les malades, que nous, on devrait arrêter de prier pour les malades? Non, on va continuer à prier pour les malades. Donc, ce n'est pas parce qu'une imitation, ou même des fois, les gens vont dire, « Ah, ça ressemble au Nouvel Âge. Entendre la voix de Dieu, ça ressemble à... » C'est sûr et certain, on devrait ressembler au Nouvel Âge. Je vais vous dire ça, parce qu'eux sont en train de nous imiter. Ils sont en train d'imiter le vrai. C'est normal. Il devrait y avoir des choses semblables, parce que Satan imite. Mais nous, ce qu'on a, on a la puissance de Dieu. On a la puissance de Dieu. Et quand, admettons, je prie pour un malade, ou vous priez pour un malade, et la personne est guérie, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Jésus vient guérir, la personne reçoit l'onction de Dieu, et la maladie quitte. Mais dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, Le sorcier ou le prêtre de voodoo, peu importe, peut prier pour la personne, faire des incantations, et puis il va peut-être déplacer le bobo, déplacer la maladie, ou peut-être même chasser cette maladie-là pour un temps et inviter un autre démon qui va venir prendre sa place. Parce que Satan vient toujours pour égorger, pour voler, égorger, détruire. C'est ça que Satan fait. Donc, quand quelqu'un peut dire, admettons, ah ben là, j'ai été guéri par un chaman ou un sorcier, tout ça, bien, en fait, c'est pas une vraie guérison. Attendez quelques temps, puis vous verrez d'autres choses qui vont se révéler. OK, mais dans le monde spirituel, pour nous, on ne doit pas être incrédule. Et si la parole de Dieu nous dit « ne méprisez pas les prophéties », c'est parce qu'on va avoir l'opportunité de le faire. Mais chérissons ce qui est vrai. Chérissons le véritable. Dans Jean 10, 27 aussi, ça dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si vous dites, ben moi, j'entends jamais la voix de Dieu, bien repentez-vous et arrêtez de dire ça, parce que si vous êtes une brebis de Dieu, vous entendez la voix de Dieu. Et j'ai fait une soirée à la chapelle où on a pris une heure et demie, on a juste vu comment Dieu nous parle. Ça fait que vous pourrez retourner sur le site enseignement.com et trouver l'enseignement, comment Dieu nous parle, puis vous pourrez décortiquer tout ça, si vous voulez. OK, donc, la boue du péché, la honte, le sentiment d'indignité, l'incrédulité et une autre chose super importante qui nous bloque souvent, c'est la crainte ou la peur du surnaturel. Plusieurs chrétiens ont peur du surnaturel, mais si vous avez peur du surnaturel, c'est difficile d'opérer dans le surnaturel, n'est-ce pas? C'est comme si j'ai peur de prendre l'auto, mais je risque de ne pas conduire mon auto. Hein? Vous comprenez? Donc, on va aller ensemble dans Luc 11, versets 9 à 13. On doit faire du ménage là-dedans parce que la crainte, c'est vraiment une chose souvent très présente. Il y a des gens qui sont là qui disent « Ah, moi j'ai peur de ci, je ne veux pas voir des anges, moi je ne veux pas voir ceci, je ne veux pas voir ça parce que j'ai peur de ça. » Mais quand on lit notre Bible, on voit que les anges existent, on voit que le surnaturel existe. On ne devrait pas avoir peur de ces choses-là. OK, dans Luc 11, versets 9 à 13, « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, si vous demandez le Saint-Esprit ou si vous demandez les dons du Saint-Esprit, ne croyez pas que Dieu va vous répondre en vous envoyant un démon ou en permettant qu'un démon vienne à sa place. Ça, c'est clair, là. Faut vraiment aller plus loin que ça. Parce que, frères et sœurs, Dieu nous appelle à être plus puissants que le diable. Dieu appelle l'Église à briller plus fort que les ténèbres sont sombres. Donc, si, admettons, si jamais, si Dieu nous dirige comme ça, si on va dans une foire là, de nouvel âge, si ça nous arrivait, je ne sais même pas si ça existe ici. J'aimerais ça, je trouverais ça le fun, moi, je pense. Mais si Dieu nous appelle, est-ce qu'on... Il y a des gens même qui diraient, « Ben moi, je ne veux pas aller là, j'ai trop peur des mauvais esprits. » Avez-vous peur des mauvais esprits? Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Si vous allez là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ces démons-là. Au contraire, vous arrivez pour resplendir. Et les témoignages qu'on entend, les gens qui ont fait ce ministère-là, c'est absolument merveilleux parce qu'ils gagnent des âmes sur le territoire du diable. Les gens sont là, des guérisseurs, se font guérir sous l'onction du Seigneur Jésus. C'est merveilleux, ça. Quand un guérisseur est malade, et le chrétien arrive et impose les mains au nom de Jésus, la personne est guérie et sauvée, ça c'est bon ça. Amen? C'est bon. Ça c'est l'invasion de la lumière dans le monde des ténèbres. Puis c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Donc on est appelé à briller, pas juste le dimanche matin à EVQ, puis dire « Ah ben, entre nous à l'église, on brille. » Non, c'est dans le monde et même dans les places les plus obscures, les plus sombres. Puis moi, je trouve ça super bénissant. Donc, si je demande à Dieu, « Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Je veux être utile en tes mains. Remplis-moi de ton esprit. Accorde-moi ces dons. » Tu me dis, « Je dois aspirer. » Bien, Seigneur, je désire ardemment vivre ces dons-là. Bien, je vais croire que quand j'ai prié, Dieu m'a entendu et Dieu va m'équiper et Dieu va se glorifier. Ça ne sera pas un démon dans ma vie. Amen. Ça, il faut faire le ménage. La prochaine fois que le diable va dire, « Ouais, mais d'un coup, si c'est un diable, un mauvais esprit. » Non, non, non. Je sais, moi, je connais mon Dieu. Je sais que Dieu ne m'envoie pas un démon. OK? Donc, et aussi, Jacques 4, 2, ça dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Souvent, je vais vous dire, les gens se disent avoir le don du discernement des esprits. Mais en fait, ce n'est pas le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits, en passant, c'est lorsqu'on voit dans le monde spirituel. On voit soit des anges, par exemple, on voit le côté de Dieu. Donc, on voit dans le monde de la lumière et on voit dans le monde des ténèbres. Souvent, les gens s'imaginent que le don du discernement des esprits concerne seulement les démons. Non, pas du tout. Le don du discernement des esprits concerne vraiment le monde invisible qu'on peut voir. OK? Donc, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que la crainte n'est pas le discernement. Il y a des fois des gens qui sont là qui disent en fait, des fois, ces gens-là s'imaginent qu'ils discernent, mais ils ont juste peur. Ils ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur du surnaturel. Puis là, les gens vont dire, « Ah, ben moi, je discerne que ça, c'est pas correct. Je discerne ci, je discerne ça. » Non, en fait, tu discernes rien. Tu es en train de juger parce que tu as peur. Tu as peur. Puis la crainte, c'est pas ça, le discernement. Le discernement des esprits, comme je vous dis, c'est de voir dans le surnaturel, dans l'invisible, où Dieu vous révèle des choses. Et... une des choses qu'on veut faire, c'est ne pas passer notre temps à être comme ces gens-là, à discerner les bobos chez nos frères et nos sœurs. C'est pas ça le don du discernement des esprits. Ça, c'est le don du critiquage. C'est pas un don spirituel. OK? Mais c'est vraiment vrai. Il y a plusieurs personnes qui s'imaginent avoir le don du discernement des esprits puis pensent que c'est ça, mais c'est pas ça du tout. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que, faites attention concernant la crainte. On veut pas laisser la crainte entrer. Parce que si vous avez de la crainte, voyez-vous, là, juste avant de terminer cette partie-là, c'est que la crainte, comme j'ai prêché bien des fois, là, la crainte neutralise la foi. La crainte, c'est votre foi en action, mais qui est placée dans le royaume des ténèbres. Au lieu de croire que Dieu peut agir, je vais placer ma foi dans ce que Satan peut faire. Donc, la crainte, c'est la perversion de la foi. Donc, si j'ai peur du surnaturel, pensez-vous que je peux vraiment être utile entre les mains de Dieu dans le surnaturel? Non. Non, sauf que j'ai besoin de bannir la crainte puis de dire non, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas peur des démons. Je suis un enfant de Dieu revêtu de l'onction de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, si je reçois des choses dans le monde surnaturel, mais je m'attends que ça vienne de Dieu parce que j'ai demandé à mon Dieu, puis je sais qu'il ne me donne pas un scorpion, comme c'est écrit dans la parole. Amen. OK. Une autre chose, un autre blocage. Être trop sur nos gardes suite à l'abus spirituel antérieur. OK. Si jamais, admettons, j'ai été blessé dans le passé, peut-être aussi il y a des gens qui ont essayé de me manipuler avec le ministère prophétique. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est discerner. Ça, c'est pas de Dieu. Puis, c'est pas parce que ces choses-là n'étaient pas de Dieu qu'aujourd'hui, on rejette le ministère. On rejette le faux, on rejette pas le don de Dieu. OK? Donc, on rejette le faux, pas le vrai. Aussi, il y a des gens qui ont peut-être peur du ministère prophétique parce qu'ils ont déjà essayé d'exercer ces choses-là. Et puis, admettons, moi, je me suis mis à prophétiser sur quelqu'un, puis la personne me dit « Non, tu es vraiment dans le champ, ça n'a aucun rapport avec ma vie. » Mais là, si la prophétie que j'ai donnée ou la parole que j'ai prononcée, si pour moi cette parole-là égale Joel Spinks, quand ils ont rejeté la parole, ils m'ont rejeté et j'ai été blessé. Comprenez ceci, vous allez être rejeté dans votre vie. Mais dans le corps de Christ, okay, on n'est pas appelé à prendre cette parole-là et dire « c'est moi ». C'est comme « la parole égale pas ma personne ». Je suis qui je suis et puis si je donne une parole, si je me trompe, c'est pas le rejet de Joel Spinks, c'est le rejet de la parole peut-être. Mais entre frères et sœurs, on a du tact puis on rejette pas la personne pour autant. Vous comprenez? Puis ça, c'est une des choses. Souvent, dans le ministère prophétique, on est vulnérable parce que là, on prend un pas par la foi puis on dit ce qu'on a reçu, ce qu'on croit avoir reçu. Puis je peux vous dire, plus souvent, là, les gens reçoivent vraiment des choses de Dieu. Mais c'est parce que la crainte est là des fois puis on dit « Ah, ben là, je peux pas parce que je me suis déjà trompé, je me suis déjà fait rejeter. » Aujourd'hui, faites le ménage. Puis même si j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé, ne laissez pas vos mauvaises expériences déterminer votre avenir. C'est ça que je suis en train de dire en ce moment pour ce blocage-là. Enlevez ça. Si vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé ou quelqu'un a essayé de vous manipuler, vous comprenez aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Et un autre blocage, c'est la passivité. Sachez que les dons spirituels ne sont pas naturels, mais surnaturels. Et l'onction de Dieu est nécessaire, mais l'onction de Dieu n'est pas toujours ressentie. Et ça, c'est une des choses. L'onction de Dieu est là, l'onction demeure sur nous. Mais j'écoutais un témoignage aujourd'hui d'un frère que vous connaissez peut-être, Todd White. Jonathan Bouchard en avait mentionné. Et puis, il racontait comment il avait évangélisé une personne. Puis, pendant qu'il évangélisait une personne, il a eu l'opportunité d'évangéliser une autre personne. Puis, à chaque fois qu'il se revirait de bord, il y avait toujours une parole de connaissance où il y avait le discernement pour telle chose. Et puis, admettons, il dit « Ah ben toi, un inconverti, tu as mal dans ton dos puis à ton genou. » Puis, il commence à prier pour la personne était guérie. Et puis là, il se tourne vers une autre personne. Encore ces choses-là qui se produisent. Constamment, où il se promène, les dons du Saint-Esprit sont là dans sa vie. Le miraculeux est évident dans sa vie. Bon, on peut se dire, ben là, il doit toujours ressentir une pression ou une onction forte sur lui. Non, il vit comme ça. Moi, je crois que Dieu nous appelle à vivre comme ça, naturellement, surnaturellement, naturellement, naturellement, surnaturel. OK? Dieu nous appelle à vivre comme ça, constamment. Donc, il ne faut pas penser toujours que si Dieu va faire quelque chose, s'il va se servir de nous, qu'obligatoirement, on est obligé de sentir quelque chose venir sur nous, puis oh, ouh, là, il faut que je fasse quelque chose. Comprenez? Non, peut-être, c'est tout à fait naturel, vous allez être à l'épicerie, puis Dieu va vous dire, cette personne-là a mal au genou. Puis là, vous allez dire, « Hey, madame! » Puis vous allez prier pour la personne, puis la personne va être guérie. Puis vous dites, « Ah, mais est-ce que c'est possible? » »« Ah oui, c'est possible, il y a plein de gens qui le font. » Mais pourquoi on ne le fait pas? Bien, c'est juste un manque d'audace, peut-être. Mais on y arrive. OK. Bon, la passivité. Donc, l'onction de Dieu est nécessaire, mais ne pensez pas que l'onction de Dieu va toujours vous faire trembler, puis à chaque fois, ça va être évident. Peut-être que vous allez juste répondre à l'appel de Dieu, puis à la parole que Dieu va vous donner. OK. Bon, mise en garde, trop de croyants attendent pour un mouvement souverain d'onction, ne réalisant pas que leur soif et leur consécration attirent l'onction. Refusons d'être passifs refusez d'être passifs afin de ne pas avoir une attitude fataliste. OK. Donc, on a vu Matthieu 11, 12, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et puis, dans Romains 12, 6, dans la Bible, Osterwald, ça dit « Ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi. » Certaines Bibles disent la foi chrétienne, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est l'exercice selon la mesure de la foi. Ceci dit, peu importe ce que Dieu vous appelle à faire dans les dons du Saint-Esprit, la foi fait partie de votre ministère. Si vous pensez de faire des choses dans le doute, ça ne marchera pas. C'est dans la foi. Vous allez toujours répondre à l'appel de Dieu. Puis pour obéir, ça prend la foi, tout simplement. Hein? Sauf que si vous allez parler, vous allez imposer les mains, vous allez faire, ça va être un geste en réponse à votre foi. Et un autre blocage, que je termine avec ça, pour les blocages, c'est des mauvais motifs. Si admettons, vous voulez faire quelque chose, vous voulez travailler avec l'Esprit de Dieu, vous voulez l'Esprit de Dieu qui coule sur vous, mais votre motif, c'est d'avoir une belle réputation ou faire des vidéos YouTube, admettons. OK? Si c'est ça, là, je veux de la gloire, bien, vous ne recevrez pas grand-chose. Dans Jacques 4:3, c'est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Mais si votre cœur est pur, mais vous le faites vraiment par amour pour les gens et amour pour Dieu, ça va être merveilleux. Donc, le déblocage est possible. Et je vais juste terminer avec quelques notes ici, puis après, on va commencer à prier ensemble et on va vivre des choses avec l'Esprit de Dieu. Commencez-vous à être prêts, là, à vous positionner? Oui? OK. Donc, si vous avez été bloqué, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez débloquer ce soir. Les déblocages sont possibles. Bon, qu'est-ce que la prophétie? On a parlé. On sous-entend que tout le monde est au courant. Mais qu'est-ce que la prophétie? La définition dans l'hébreu, c'est le mot « naba » qui veut dire « couler, verser, jaillir, bouillonner ». En fait, c'est comme quelque chose qui est en train de bouillir en vous. Là. Vous sentez, c'est comme de l'eau qui est en train de faire des bulles. Souvent, c'est comme ça. Vous êtes là, puis vous recevez une parole, mais là, ça commence à brasser en vous. Là. C'est comme un jet d'eau. Là. C'est comme « Oh mon Dieu, je reçois quelque chose ». Puis c'est comme aussi... C'est comme si vous ne le donnez pas, c'est comme vous le savez que vous êtes appelé à le dire, à le donner. OK? Ça brasse par en dedans. Et le mot naba veut dire publier ou est traduit comme étant publier, instruire, faire jaillir, discourir, proclamer et puis répandre. Et une autre, le même mot, naba, une autre définition veut dire prophétiser sous l'influence de l'Esprit divin. Donc, c'est ça. C'est une des façons qu'on peut reconnaître quand Dieu nous appelle à prophétiser. On ne choisit pas si on va donner une parole de connaissance, mais on peut choisir « Seigneur, je me rends disponible pour la prophétie. » Toi, tu vas décider si c'est une parole de connaissance, parole de sagesse. C'est toi qui décides. Hein? Parce qu'on ne connaît pas la pensée de Dieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses et c'est lui qui va donner la parole que votre voisin a besoin d'entendre. But de la prophétie, OK, dans Corinthiens 3, on a vu, c'est vraiment... Je vous ai donné ici dans la Bible du Sommeur, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Donc, au lieu d'édifier, on va essayer de les aide les autres à grandir ou les bâtir dans la foi, les encourage et les réconforte. Nous ne donnons pas des paroles négatives, mais nous bâtissons. C'est une des choses. Quand on se positionne dans la foi pour que le Seigneur se révèle à nous, OK, ce qu'on veut faire, c'est toujours bâtir, c'est toujours la vision de bâtir les gens. On est dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas là, on n'est pas des prophètes de l'Ancien Testament. Vous comprenez bien, dans l'Apocalypse 19:10, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis on sait que le Seigneur Jésus, ce qu'il veut faire, c'est nous donner la vie en abondance, et Dieu va se servir de nous pour apporter des paroles de destinée, des paroles pour bâtir des gens. Puis vous allez être surpris des fois, si vous êtes en train d'évangéliser, par exemple, puis vous êtes ouvert, le Seigneur peut commencer à vous donner des choses, vous allez même être surpris des choses qui vont sortir de votre bouche. Comme il y a une sœur que je connais, elle s'est mise à parler à un homme sur la rue, puis elle commence à dire comment le Seigneur avait préparé une belle table de banquet devant lui. Puis elle commence à parler d'une table de banquet. Mais le monsieur se met à pleurer, puis elle ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais cet homme-là, c'était un homme qui travaillait dans l'hôtellerie, puis il passait ses journées à installer des tables de banquet. Mais au début, ça pouvait être là, puis il dit, mais pourquoi je dis ça? Mais parce que Dieu le savait, tout simplement. Dieu savait ce que la personne avait besoin d'entendre à ce moment-là. Sauf que c'est ça. Sauf qu'on veut bâtir. Et puis, si vous êtes là, puis vous dites, ben, je commençais à parler, puis après, j'ai comme figé, je ne savais plus quoi dire. Savez-vous, une parole qui est toujours une bonne parole, Dieu vous aime avec un amour éternel. Dieu vous aime. L'amour de Dieu, ça, c'est toujours une parole qui est parfaite. OK. Aussi, en terminant, la prophétie est un don, pas une récompense. Comprenez ceci, la prophétie ou les dons spirituels sont justement des dons, pas des récompenses, pas parce qu'on mérite, pas parce qu'on est meilleur que les autres. Ah, nous, on est tellement plus sanctifiés. Vous savez, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est des nouveaux chrétiens. Ils viennent juste d'accepter le Seigneur. Tout de suite, on leur dit, « Hey, tu peux aller déclarer la parole de Dieu, tu peux aller prophétiser sur les gens. » Tout de suite, ils se mettent à prophétiser, puis les gens sont touchés puis sauvés. Comme ça, il y en a, là, oh, ça m'impressionne, des nouveaux chrétiens. Mais des fois, des vieux chrétiens de 30 ans, ben, on a tellement de théologie qu'on ne fait rien, et puis on pense qu'il faut mériter quelque chose. Non, on n'a rien à mériter. C'est une grâce de Dieu. C'est les dons que Dieu a donnés à son Église pour se glorifier et pour faire le ministère. OK, donc le prophétique est un don, pas une récompense. Le prophétique est partout dans la Bible. Hein, on peut lire des récits où on voit des rêves, des visions, des visitations angéliques et le ministère prophétique tout au long de la parole de Dieu. Donc voilà, on a vu plusieurs choses simplement pour nous mettre dans la foi ce soir. Le but, c'était vraiment de donner un fondement sur le ministère prophétique. C'est quoi ça justement, le ministère prophétique? On a vu ça simplement pour réveiller un peu notre esprit, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous. Les dons spirituels sont disponibles ce soir pour nous. Et là, ce qu'on a besoin de faire, c'est pas simplement être des auditeurs ou des auditeurs oublieux, mais on veut passer à l'action. On veut prier, se mettre dans la foi et s'attendre que Dieu va faire quelque chose. Croyez-vous ce soir? Moi, je crois que c'est impossible qu'on s'est déplacé ici et que l'Esprit de Dieu n'a absolument rien à faire. Pensez-vous vraiment que c'est possible? On s'est tous déplacés ici, là. Puis que l'Esprit de Dieu va dire, ben, eux autres à Granby, non, je n'avais rien à dire, là. J'avais rien à dire à cette gang-là. Pensez-vous que c'est possible? Non. Ou quelqu'un a besoin de guérison? Non, pas à soir, ça ne me tentait pas trop. J'étais trop fatigué. Non, je suis sûr. Regardez ce qu'on va faire. Je vais juste relire les dons spirituels. Parce que ce qu'on veut faire ce soir, là, c'est juste être ouvert à ce que l'Esprit de Dieu se serve de nous. 1 Corinthiens 12, verset 7. Juste pour solidifier l'affaire là, dans vos cœurs. Or, à chacun... Dites chacun. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Sauf que c'est moi le chacun, là. Est-ce que vous pouvez vous voir dans ce verset-là? Donc, vous pouvez remplacer votre nom. Admettons, moi, je pourrais dire, or, à Joël, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, ça va être votre tour. Je vais vous inviter, dites votre nom quand je vais le relire, puis tout le monde ensemble, on va entendre nos noms. Or, à Joël, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le croyez-vous, là? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que notre foi. Si on ne s'attend pas que Dieu va se glorifier, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais si on est dans la foi et on croit la Bible, si on croit la Bible, c'est tout ce que Dieu nous demande. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. On sait que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Or, à un autre, la foi par le même esprit, si on parle de la foi spéciale. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et Dieu veut faire quelque chose selon le besoin des gens. C'est ça, Dieu veut faire quelque chose. C'est impossible que Dieu ne veuille rien faire au Québec. Je ne crois pas ça. Donc, si on veut passer à l'action, ce qu'on va faire, bien, premièrement, je vais juste vous donner vos devoirs. Parce que si jamais on quitte la place après, ce que je veux vous donner comme devoir, achetez-vous un carnet, si vous n'avez pas. Achetez-vous un carnet et positionnez-vous dans la foi à chaque jour, à tous les jours. Priez que Dieu vous révèle des choses, que ce soit dans la parole, mais écrivez ce que Dieu vous donne personnellement pour votre vie. OK? Donc, achetez-vous un carnet et puis le Seigneur va commencer à vous donner des choses pour vous, pour votre propre vie. Et puis, rapportez le carnet aussi pour les cours qu'on a ensemble. Et puis, là, ce qu'on va faire, donc, c'est une des choses. Puis je veux juste vous dire, comme on va prier, on va se mettre dans la foi, on va prier. Puis des fois, peut-être vous allez recevoir un mot. C'est peut-être juste un mot, puis vous allez dire, ben là, est-ce que je peux vraiment le donner? L'histoire du Rocky Road, ça va peut-être vous aider là-dedans. Mais comprenez ceci, le prophétique, c'est comme une boîte de Kleenex. OK, vous prenez un Kleenex, vous êtes surpris, hein? Le prophétique, c'est comme une boîte de Kleenex. Vous prenez un Kleenex, c'est comme un mot, puis après, il y a un autre mot qui va sortir. Il va toujours en avoir d'autres. Mais souvent, c'est le premier mot. Je reçois un mot, puis vous donnez ce mot-là, puis là, ça commence, puis ça sort. Et puis, je me souviens, le frère Mario Mascotte avait dit au tout début de son ministère, Dieu lui avait donné une prophétie, mais il dit, mais je ne sais pas quoi dire, Seigneur, j'ai juste un mot. Sauf qu'il ne l'a pas donné. Mais là, il y a quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui s'est mis à prophétiser dans l'église. Et c'était le même mot que lui avait reçu, que le frère Mascotte avait reçu. Et là, il était là, oh non, j'ai vraiment manqué ma chance, j'avais entendu Dieu, mais j'ai eu peur, je ne l'ai pas dit. Après, ce même frère-là vient le voir et dit, c'est toi qui avais reçu la parole, Dieu me l'a dit. Tu avais reçu la parole, tu ne l'as pas donné. Imaginez. Sauf que des fois, on est là, on dit, ben c'est juste un mot. Ben oui, c'est juste un mot, mais si c'est le mot que Dieu donne pour la personne, osez le dire. Osez le dire. Puis si jamais vous vous trompez, on s'aime tous, frères et sœurs, n'est-ce pas? On dit, ben, et juste une autre chose que je dois vous dire. Des fois, vous donnez une parole, la personne n'a aucune réaction, puis vous pensez que la personne n'a rien reçu. Vous dites, je dis à Patrick, robe rouge. Ça ne dit rien, absolument rien. Je viens de lui dire robe rouge. Ça ne dit rien. Mais, il n'y a aucune réaction, OK? Il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il n'y a rien reçu. Puis là, une autre personne lui donne robe rouge. Troisième personne. Admettons, des fois, là, ça prend plusieurs confirmations avant que la personne saisisse. Puis là, la personne est vraiment, elle sait vraiment que Dieu lui a parlé. Des fois, c'est comme ça. Mais des fois, la personne n'a aucune réaction. Ça ne veut pas dire que la personne a refusé votre parole non plus. Comprenez? Et ceci dit, si la personne refuse ce que vous avez ressenti, ça ne veut pas dire que la personne vous rejette. Donc, comprenez ceci. Comme si une personne ne reçoit pas vraiment votre parole, ça ne veut pas dire qu'elle vous rejette. C'est-à-dire que faites la distinction entre vous et la parole. Ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est édifier les frères et les sœurs. Et puis, on ne peut pas se tromper là. Si on prie, on aime, on est motivé par l'amour pour bénir quelqu'un ce soir. Êtes-vous prêts à bénir quelqu'un?
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.